Alors, ce matin, le titre du message que je vous présente est très simple, et c'est celui-ci, « Des disciples axés sur la mission ». Une phrase qui est tirée de notre prière visionnaire, et comme vous le savez, ça fait quelques semaines qu'on parle un petit peu de la prière visionnaire de l'Alliance, qui est finalement un condensé de ce qu'on espère, par la grâce de Dieu, être en mesure de devenir. Et donc, ce matin, on parle de la mission avec l'espoir que vraiment le Saint-Esprit va venir toucher nos cœurs, va venir nous changer, nous transformer, nous motiver à être des chrétiens qui vivent une foi à la fois intimement personnelle et une foi qui est également tournée vers l'extérieur et donc qui se soucie du bien-être spirituel et éternel des autres. Si vous n'étiez pas avec nous, on va prendre une minute quand même pour lire ensemble la prière visionnaire de l'Alliance chrétienne et missionnaire. Et c'est celle-ci. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Viens nous transformer de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de se multiplier partout. Donc, de sorte que nous devenions des disciples axés sur la mission. Ce matin, je vais vous amener dans un texte avant qu'on ait décortiqué un peu plus qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Un texte qui, selon moi, illustre bien dans la parole de Dieu. C'est en Actes 5 qui illustre bien qu'est-ce qui s'est passé pour les premiers disciples, en fait, lorsqu'ils ont été... Ils étaient mandatés déjà par Jésus pour aller et annoncer l'Évangile. Voyons voir qu'est-ce que cette annonce ou cette responsabilité que Dieu leur a confiée a produit en eux, dans leurs circonstances. Donc, Actes 5, versets 17 à 42, vous pouvez suivre à l'écran ou dans vos Bibles si c'est trop petit. Je vais lire dans la version Second 21. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, et les gardiens devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » À l'écoute de ces paroles, le commandant des gardes du temple et les chefs des prêtres se montrèrent perplexes. Donc, perplexes, ça veut dire qu'ils étaient confus. Ils ne savaient pas trop qu'est-ce qui se passait. Ne sachant que penser de cette affaire, quelqu'un vint leur dire, « Les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. » Alors, le commandant partit avec les gardes et les ramena, mais sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea en disant, « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus que vous avez tué en le clouant au bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Israélites, Faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps, Teudas est apparu. Il prétendait être quelqu'un et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas le Galiléen à l'époque du recensement. Il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis. Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdisant de parler au nom de Jésus, et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Que Dieu soit béni pour sa parole. Avec reconnaissance ce matin, nous recevons le témoignage qui a été consigné dans l'Écriture sur la vie des disciples de Jésus après son enlèvement. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous frappent dans le texte. Peut-être c'est un texte que vous êtes habitué de lire. Peut-être même que vous ne l'avez jamais entendu. Cette histoire dans la Bible, elle nous apprend quelque chose sur la mission que j'aimerais qu'on puisse étudier un peu ensemble aujourd'hui. Et là, je vais vous mettre au défi. Si vous êtes un jeune adulte qui était présent hier quand on a fait une leçon ensemble sur comment étudier la Bible, je vais vous inviter à essayer de prêter attention à quelle forme d'interprétation biblique, quel outil, dans notre coffre à outils d'interprétation biblique, je vais utiliser sur la prochaine diapositive. Et si vous le savez, vous pouvez lever votre main et nous aider un petit peu. Donc, voici ce qu'on peut remarquer dans le texte. On comparera ici l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Satan, donc l'œuvre des hommes, qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Voici ce que nous voyons dans le texte. Premièrement, nous voyons qu'il y a de la jalousie. Et parce que les chefs religieux sont jaloux des apôtres, ils font quoi? Ils les mettent en prison, n'est-ce pas? Alors, on ne peut pas trop dire que c'est une bonne réaction, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Il se passe que il y a des miracles, des guérisons, de la curiosité des gens, une bonne perception. Ou plutôt, c'est l'inverse, je m'excuse, je me suis trompée dans mes numéros. Donc, c'est c'est plutôt au départ, il y avait eu des miracles, des guérisons, ce qu'on n'a pas lu dans le texte, mais pourquoi il était jaloux? C'est parce qu'il y avait des miracles, des guérisons, des délivrances et de la curiosité des gens, une bonne perception. Ce que ça a entraîné, c'est de la jalousie. Ensuite, une interdiction d'évangéliser est arrivé aussi. Il y a eu un ange qui s'est manifesté. Et qu'est-ce que ça a entraîné? De la perception, de la perplexité, c'est-à-dire de l'incompréhension de la part des gardes et des chefs religieux. Ensuite, il y a eu de la colère, un désir meurtrier. Mais qu'est-ce que ça a donné? L'opportunité pour les apôtres de témoigner sur l'obéissance à Dieu, leur obéissance à Dieu. C'est passé autre chose. On a fouetté les disciples et on leur a interdit de parler de Jésus. Mais voici qu'il se passe autre chose encore. Le pharisien Gamaliel invite à ne pas combattre contre Dieu. Et puis finalement, l'histoire se termine en nous montrant qu'ils partent évangéliser avec joie. Donc, pour mes jeunes adultes, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que je suis en train de montrer ici à l'écran? Exact. Exactement. Donc, on regarde la structure du texte, ou la structure dans ce cas-ci, plus spécifiquement, de l'histoire, et qu'est-ce qu'on peut en apprendre? On peut voir dans ce texte-là, en fait, que Dieu nous montre qu'il est capable d'ouvrir des portes. Donc, pour être axé sur la mission, on doit se souvenir que lorsque l'être humain ou l'ennemi essaie de fermer une porte, Dieu est toujours capable d'en ouvrir une autre. Donc, quand il y a eu de l'opposition, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est manifesté aussi. à travers le témoignage des apôtres, à travers l'apparition d'un ange, à travers même une pensée qui est déposée dans le cœur d'un homme qui n'a pas encore mis sa foi en Jésus, mais qui est peut-être en cheminement. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque nous nous engageons en mission, frères et sœurs, parfois, l'opposition, ça peut être un signe que le Saint-Esprit est en action. Lorsque c'était le temps de la pandémie, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la pandémie. Idéalement, oui. Ça veut dire que vous étiez là. C'est pas nécessairement un beau souvenir pour beaucoup d'entre nous. Mais pour moi, il s'est passé quelque chose durant la pandémie d'assez intéressant. Une histoire que je vous raconte qui sert un peu à illustrer cette œuvre-là du Saint-Esprit dans un contexte où parfois on a l'impression qu'il y a de l'opposition. Et je m'excuse si j'ai déjà raconté l'histoire puis que je radote. Faites juste un beau sourire puis faites comme si vous en souveniez pas, si vous l'avez déjà entendu. Et donc, j'avais un ami. Et cet ami-là, il n'était pas chrétien, en fait, et il marchait dans une autre religion. Et on avait des débats depuis un certain temps par rapport à la Bible. Est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu? Est-ce que Jésus, c'est le Fils de Dieu? Et alors qu'on a tous ces débats-là, c'est la pandémie. Cette personne-là est très isolée, donc habite seule dans un logement, vient d'arriver au Canada, n'a pas d'amis, fait ses études en doctorale en ligne, donc vraiment coupée du monde. Et est arrivé juste un petit peu avant la pandémie. Donc, cet ami-là, il avait comme, mettons, deux amis au Canada, moi et une de mes amies, on l'avait rencontré dans un événement. Et puis, il commence à m'appeler à presque tous les jours et à me donner des nouvelles de mon ami, tu sais. Puis vraiment, il y avait un besoin de socialiser. Et moi, ça donne que l'heure qu'il m'appelait, c'était l'heure de ma méditation biblique. Et donc, de manière, vous savez, très gentille et mature, je me suis un petit peu comme énervée. Je dis là, tu m'appelles toujours à l'heure de ma méditation biblique. Donc, soit tu fais la méditation avec moi, soit tu m'appelles à un autre temps. Et à ma surprise, il me dit, « on peut faire ça. Tu peux me le lire, là, ton affaire sur la Bible. » Je dis, « c'est intéressant. » Et donc, une journée, deux journées, trois journées, et à la troisième journée, il se fâche avec moi. Il dit, « C'est quoi ton affaire, là? Tu choisis toujours une méditation en fonction de qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Tu essaies de me manipuler, là, pour que je croie ton affaire. » Et il y avait vraiment de la colère. Et moi, j'avais envie de sourire, j'avais envie de rire, parce que je disais, c'est que cette personne ne sait pas comment le Saint-Esprit travaille. Je n'ai pas choisi la méditation. J'ai dit, non, c'est un livre, c'est déjà écrit d'avance, il y a des dates, et moi, je fais juste suivre les dates. J'ai dit, si tu ne me crois pas, inquiète-toi pas, la prochaine fois que je t'amène à l'épicerie, je te le donne, et tu pourras voir par toi-même. Il y avait de l'opposition. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Cette personne-là, ne sachant pas un peu exactement comment ça fonctionne pour les chrétiens dans l'Église, pensait que je lui avais donné mon seul livre de méditation biblique. Et donc, il s'est mis à m'appeler à tous les jours pour me lire ma méditation. Alors, je ne l'ai pas corrigé. Je l'ai laissé faire. Mais éventuellement, cette personne-là en est venue à mettre sa foi en Jésus. Mais opposition ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre. Parfois, c'est même l'inverse. Alors que Dieu fait face avec nous, à travers son esprit, à l'opposition des hommes, il est aussi capable de se révéler. Et Dieu désire se révéler. Comme on a pu le lire un peu dans l'histoire des apôtres, Dieu a ajouté sa bénédiction à l'obéissance des apôtres qui étaient en mission pour partager l'Évangile. Donc, nous l'avons vu dans notre prière, c'est notre désir comme famille d'Église de désirer Dieu de tout notre cœur, que Dieu vienne nous transformer. On veut être transformés, on ne veut pas juste être des chrétiens qui aiment passer du temps avec Dieu, on veut être des chrétiens qui se laissent impacter par Dieu, modelés par lui. Et tout ça pour qu'on puisse devenir vraiment centré sur Jésus, dynamisé hein, par son esprit et axé sur la mission pour être capable de se multiplier partout. Dans les dernières semaines, hein, j'ai prêché sur le premier message. Marc a continué la série avec le deuxième et le troisième. Et maintenant, on est rendu sur axé sur la mission. Si vous avez un peu le sens de l'observation, vous allez vous rendre compte qu'on a sauté le numéro 4. Inquiétez-vous pas, on va y revenir. Mais aujourd'hui, j'espère qu'ensemble, on va pouvoir vraiment aller de l'avant et créer un suspense. Hein, parce qu'on aime être centré sur Jésus, on aime être transformé, désirer Dieu, mais on a aussi besoin de son Saint-Esprit. Et j'aimerais vous suggérer ce matin qu'on ne peut pas être axé sans la mission, sans intégrer à notre vie spirituelle les autres aspects de notre prière visionnaire. Donc, ce n'est pas possible pour nous hein, de juste être des chrétiens axés sur la mission sans vraiment avoir soif de Dieu, sans vraiment être rempli du Saint-Esprit, sans vraiment être focusé sur Jésus. On a besoin de toutes ces choses-là pour être axé sur la mission de la bonne manière. Donc, il y a de l'opposition, et parfois cette opposition-là amène des souffrances. Le texte nous n'élabore pas en profondeur sur ce qu'ont vécu les apôtres, et c'est possible que les apôtres, hein, par moment dans leur cheminement, et dans d'autres textes on le voit, ils ont ressenti de la peur, et toutes sortes d'autres émotions. Mais ça fait partie de notre vie chrétienne tout de même. Les souffrances des apôtres sont aussi celles que Paul aura vécues quand il va partager l'Évangile avec des gens de d'autres nations. Et pour le chrétien, la bonne nouvelle est ceci. C'est pas question de dire la souffrance ou la joie, mais plutôt la joie malgré la souffrance. Donc ce matin, si vous êtes parmi nous et vous, peut-être vous venez depuis longtemps à l'Église, mais vous n'avez pas encore pris de décision pour Jésus, c'est une bonne nouvelle. C'est une des bonnes nouvelles de l'impact de l'œuvre de Dieu en nous. Et j'aimerais vraiment vous inviter à considérer que Jésus, hein, à travers l'œuvre de son esprit en vous, peut vous donner la joie malgré la souffrance. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes un peu fatigués de partager votre foi. Vous vous êtes fait un peu bardasser, humilier, utiliser le mot que vous voulez, mais vous avez vécu des choses négatives lorsque vous avez partagé votre foi. Dieu veut vous donner la joie malgré la souffrance, comme il l'a fait pour ses apôtres. Nous le voyons, cela faisait partie du plan de Dieu. En Actes chapitre 9, nous voyons ce que le Seigneur a dit. Il dit, mais le Seigneur lui dit, vas-y, à Barnabas, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Donc, la souffrance faisait partie de l'appel de Paul. Et comme chrétien, on n'a pas besoin d'avoir peur de vivre de l'opposition, de vivre de la souffrance. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne que l'Esprit de Dieu est un esprit de consolation. Elle nous enseigne hein, que quand des gens viennent pour mettre des bâtons dans les roues hein, à l'Évangile, Dieu est capable de répondre à l'opposition des hommes. Il n'est pas limité, il n'est pas intimidé comme nous, on peut se sentir parfois. 1 Pierre nous dira ceci, et ça s'adresse à tous les chrétiens de l'Église. « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui servit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse. Lorsque sa gloire sera dévoilée, si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. » Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Amen. Alors ici encore les couleurs pour vous montrer un peu la structure. Réjouissez-vous en la joie. et à cause de la souffrance. Vous êtes dans la joie et dans l'allégresse si vous êtes insulté. Hein, l'insulte est une forme de souffrance. Vous êtes heureux. Donc, lorsqu'il a la souffrance, Dieu est capable de répondre aussi à la souffrance avec la joie qu'il produit en nous à travers son esprit. Amen. Donc, la joie est au rendez-vous. Et parfois, il nous faut accepter de souffrir un peu pour faire connaître Jésus. Le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, sait répondre à la joie à chacune de nos souffrances dans la mission. Mais le fruit de l'Esprit, c'est beaucoup de choses, dont la joie. Peut-être on pourrait se demander, comme chrétien, qu'est-ce qui fait en sorte que parfois on n'est pas axé sur la mission? Et on est un peu comme ce petit monsieur-là qui essaie de tirer sur la cible, mais qui n'est pas pantoute dans la bonne direction. Et il n'y a pas une bonne position, merci. Moi, je ne connais rien à ça, mais je te fais confiance. Comme je le disais précédemment, il nous faudra revenir pour être axé sur la mission. Il faudra s'axer sur le désir de demeurer enflammé pour Dieu, avoir soif de sa présence. Pour être axé sur la mission, il nous faudra être axé sur la transformation intérieure. Parce que c'est demandant parfois de partager l'Évangile. Parfois, on partage l'Évangile et les gens nous reflètent. Peut-être qu'on est arrogant, peut-être qu'on manque de douceur et toutes sortes d'autres choses. Donc, il faudra se laisser transformer par Dieu pour être de bons évangélistes, de bons missionnaires, de bons chrétiens qui partagent son nom. Et c'est la même chose pour les autres choses. Il nous faudra être centré sur Jésus. On peut avoir beaucoup de débats par rapport à des choses dans la Bible qui sont très secondaires. Et des fois, les gens nous amènent dans toutes sortes de directions. Je me souviens, un jour, je faisais de l'évangélisation et une des personnes était vraiment focussée sur qu'est-ce qui arrive quand les chiens meurent. Est-ce qu'ils vont au paradis? Et donc, j'aurais pu me laisser distraire à l'infini. Et il y a toutes sortes de questions comme ça. Et vraiment, ce n'est pas essentiel au salut de savoir où vont les chiens quand ils meurent. Mais il faut garder le cap sur Jésus si on veut conduire des gens à le connaître. Et il nous faudra continuer à compter sur la puissance de son esprit et pas juste sur nos propres forces. Donc, parfois, on n'est pas axé sur la mission, comme ce jeune homme-là, parce qu'on n'est pas transformé. Donc, on est parfois distrait par la souffrance qui est liée à nos péchés. Je ne sais pas si vous êtes capable de réfléchir un peu sur votre vie. Moi, j'ai certainement, je pense, à une décision dans ma vie où je me suis rebellée contre Dieu, j'ai pris une décision. Et ça a eu des conséquences, encore des conséquences sur ma vie. Imaginez quand on choisit de s'entêter dans le péché, dans plusieurs domaines de sa vie. Des fois, ça nous demande beaucoup de travail de réparer les pots cassés que le péché a conduits dans notre vie. Parfois, on a de la misère à être centré sur la mission parce qu'on n'est pas centré sur Jésus. On a oublié qu'on a été béni pour bénir. Parfois aussi, on n'est pas dynamisé par l'esprit. Et donc, on manque d'amour envers les gens qui ne connaissent pas Jésus. Voyons ça un peu plus en détail. Je ne suis pas transformée. Trop occupée à réparer les pots brisés dans ma vie ou à en casser des nouveaux. La parole de Dieu encore en 1 Pierre nous encourage en nous disant que personne parmi vous n'est à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires des autres. Et il nous disait tout à l'heure, Pierre, surprenez-vous pas si vous vivez de la souffrance. Mais il dit attention! Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous souffrez parce que vous vous êtes mis vous-même dans des problèmes. Ça, c'est une distraction dans votre marche avec Dieu. Dieu désire vous transformer. Il désire vous libérer des conséquences du péché dans votre vie. C'est pour ça qu'il vous dit « Soyez saints comme je suis saint ». C'est parce qu'il ne veut pas que vous passiez votre vie à casser des pots puis à les réparer. Il y a déjà assez de choses qu'on doit guérir dans notre marche avec Dieu par rapport aux péchés qui ont été commis envers nous. Frères et sœurs, soyons diligents de nous-mêmes, hein, pas être celui ou celle qui casse des pots dans la vie des autres. Parfois, on n'est pas centré sur Jésus. Et donc, on a oublié qu'on est béni pour bénir. C'est la base de l'Évangile. Dieu t'a sauvé et t'a pardonné tous tes péchés. Comme dira Jésus dans la parabole, il ne faut pas être comme ce serviteur-là. Vous vous souvenez, le serviteur ingrat, qu'est-ce qu'il fait? Il a été pardonné une grosse, grosse dette. Et là, il rencontre quelqu'un qui lui doit quelque chose. Ah, ah, tu vas aller en prison! Parfois, on est béni par Dieu, on a été pardonné de nos péchés, on a été transformé, on est encore transformé, on peut compter sur la présence de Dieu dans nos vies. Et on n'a pas envie de partager ça avec les autres. On oublie que l'attente de Dieu, c'est qu'on le partage aussi avec les autres. Je dis béni pour bénir parce que c'était en fait, si vous vous souvenez bien, ce que l'Éternel avait dit à Abraham avant qu'il soit appelé Abraham. Il lui dit « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, va dans le pays que je te montrerai, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. » Est-ce que ce n'est pas là la base de notre appel comme chrétien? Quelques millénaires plus tard, Dieu nous a bénis avec l'Évangile, pour qu'on puisse aller et bénir les autres en leur partageant la bonne nouvelle de Jésus. Parfois, on n'est pas dynamisé par l'Esprit. Un peu comme Jonas. Si vous vous êtes familier avec l'histoire de Jonas, Jonas est un prophète de l'Ancien Testament et Dieu lui dit « Va annoncer le besoin de repentance à Ninive. » Et Ninive était une ville ennemie. Ah, ils étaient... un peuple qui était reconnu pour avoir été très cruel et très dur envers le peuple de Jonas, les Israélites. Et qu'est-ce que Jonas dit? Est-ce qu'il dit « Let's go, Dieu, j'y vais, je suis en feu. » Qu'est-ce que Jonas dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il court. Il s'embarque sur un bateau pour aller dans la direction opposée. Parfois, malheureusement, comme chrétien, on peut tomber dans des pièges, comme le piège du racisme, du sexisme, des préjugés, des ressentiments. Parfois, des gens dans nos vies envers qui on devrait partager l'Évangile, on leur en veut, on ne leur a pas pardonné. Parfois, on est même épuisé, notre compassion est comme à bout. Je suis tannée de lui pardonner. Sans l'œuvre du Saint-Esprit en nous, on manque tous un jour ou l'autre d'amour envers les incroyants. Mais le fruit de l'Esprit, nous dit la parole, c'est quoi d'autre que la joie? L'amour et la bienveillance. Voyez-vous pourquoi on a besoin d'être dynamisé par l'Esprit? Par nous-mêmes, on n'y arrive pas. Alors, on a besoin de revenir à la mission. Et je vous pose cette question. Comment Jésus souhaite-t-il me transformer pour me libérer du péché et de ses conséquences qui me distraient de la mission? Comment puis-je demeurer centré sur la bénédiction abondante qu'est Jésus dans ma vie afin de souhaiter partager le cadeau de l'Évangile avec les autres? Et finalement, comment puis-je recevoir la puissance de l'Esprit pour aimer assez les autres pour leur partager la bonne nouvelle? En ce moment, j'aimerais vous laisser avec ces questions. Dans un petit temps, peut-être, vous pouvez poser ces questions à Dieu dans la prière. Prenez une minute et je vais inviter l'équipe de louange peut-être à venir juste jouer quelque chose de doux pendant qu'on prend ce temps de recueillement avant les chants finaux. Me transformer. Comment souhaites-tu me libérer du péché dans ma vie qui me distrait de ma mission comme disciple? Comment veux-tu me guérir, Seigneur, des conséquences du péché dans ma vie qui parfois m'apparaissent tellement lourdes, tellement présentes que j'arrive pas à me focusser sur la mission que tu m'as donnée. Seigneur, apprends-moi à demeurer centrée sur la bénédiction que tu m'as donnée, d'être pardonnée, d'être adoptée dans ta famille comme enfant de Dieu. Seigneur, donne-moi la joie de mon salut. Ô Seigneur, pour que je puisse vouloir de tout mon cœur la partager avec d'autres. Et Seigneur, tu vois que parfois je m'épuise. Mes propres forces à moi ne m'ont pas été utiles pour te connaître. J'ai eu besoin de l'œuvre de ton esprit en moi. Et pour faire ton œuvre ici-bas, pour contribuer à l'avancement de ton royaume, j'ai aussi besoin de ton Saint-Esprit. Seigneur, je ne peux pas y arriver par moi-même. Alors ce matin, je t'invite, viens prendre ta place en moi. Viens prendre ta place en nous. Oui, Seigneur, ce matin, je te le demande pour chacune des personnes présentes ici. Viens parler individuellement avec chacun de tes enfants ce matin pour qu'ils puissent reconnaître là où tu les appelles à aller plus loin avec toi, là où tu les appelles à se conformer, Seigneur, à ta parole. Et c'est dans ton nom puissant, Jésus, que je prie et que je te donne libre accès à mon cœur. Viens me rencontrer, Jésus.